Chapitre 29. Tante Destinée accueillit Léonie avec un sourire carnassier. En l'observant par les yeux de son corps d'emprunt, Cyriane estima que son nom d'animal, la hyène, lui allait comme un gant. Tout en dents, œil cruel, air faussement nonchalant, guettant la première manifestation de faiblesse de sa proie pour se jeter sur elle. Peau d'un noir moins foncé que celui de Léonie, même reflet bronze. Vêtue la plupart du temps chez elle d'une ample robe africaine aux teintes vives qui dissimulait ses formes généreuses, elle adoptait lorsqu'elle sortait le tailleur chic, les bas, les chaussures à hauts talons, le foulard de soie et le chapeau assorti. Son pavillon ne se distinguait pas des autres maisons de la rue. En revanche, à l'intérieur, c'était une explosion de couleurs criardes, de meubles en bois peint et brillant, de peaux d'animaux, de tapis bariolés et d'objets kitsch. Elle semblait avoir pris un malin plaisir à assortir les tons les plus discordants, de sorte que l'œil non averti s'affolait un long moment avant de trouver un endroit où se poser. Elle resta plantée devant Léonie sans se départir de son sourire. Lucius, lui, se tenait fier et droit derrière la brebis ramenée au bercail, gonflée d'orgueil. Tante Destinée y alla de sa gifle, moins puissante sans doute que les coups assénés par Lucius, mais sèche, rageuse. Léonie se mordit la lèvre inférieure pour contenir sa colère, sa détresse, ses larmes. Cyriane ressentit la brûlure sur sa joue, avec la même netteté que si on l'avait frappée dans son corps d'origine. Il faisait sienne les moindres pensées, les moindres réactions de son corps d'emprunt. La fusion évoquée par Johannes, il avait aperçu l'Allemand par le regard de Léonie, baignant dans son sang, ses dents éparpillées sur le trottoir. Il se demandait s'il s'en relèverait.
« Tu nous as fait peur, ma nièce !» fredonna enfin Tante Destinée d'une voix grave et chaude.
« On n'a pas idée de partir sans donner de nouvelles, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui t'a pris ?» Léonie eut envie de répondre qu'elle estimait avoir rapporté assez d'argent à ses geôliers, pris assez de coups, supporté assez de clients. Cyriane l'en dissuada. « On a un avantage, et ils ne le savent pas. On est deux. Fais semblant de te résigner. » Elle ravala les mots qui se pressaient dans sa bouche. « Eh bien, tu as perdu ta langue ?» Le regard de Tante Destinée traqua celui de Lucius. « Elle est devenue idiote ou quoi ?»«
Pas tant que ça, » gloussa le pan. « Elle nous a vite doublés. Elle travaillait pour un jeune blanc-bec bourré de fric. »
Le sourire s'effaça des lèvres de Tante Destinée. La deuxième gifle claqua, étourdissante. Léonie fléchit sur ses jambes. Lucius exhiba la liasse de billets récupérés dans la veste de Johannes.
« On en a repris une partie. Et son blanc-bec, il n'est pas prêt de faire travailler une fille. »
Il se pavanait. Mais, à la façon dont il fuyait le regard de la femme qui partageait sa vie, on savait instantanément lequel des deux gouvernait le couple.
« Elle a grossi, » marmonna Tante Destinée. « Pas bon pour les clients, ça. »
« Les hommes préfèrent les femmes bien en chair, non ?» remarqua Lucius.
« Les hommes ordinaires, oui. Pas nos clients. »
Tante Destinée évalua encore une fois sa nièce avec l'œil semi-plissé d'un maquignon.
« Peut-être qu'il est temps de changer de client. »
Elle accueillit la suggestion de son amant d'un soupir exaspéré.
« Il en faudrait au moins 30 par jour pour gagner la même chose que ce qu'elle gagnait avec 2 ou 3. Pas question de recevoir 30 clients par jour dans ma maison, on serait repérés en moins d'une semaine. »
Lucius entrouvit la bouche, se ravisa, garda un silence prudent. Tante Destinée fixa de nouveau Léonie en hochant la tête.
« On va la mettre au régime jusqu'à ce qu'elle soit aussi maigre qu'avant. » Il faut qu'on lui voie les os dans 10 jours, pas un de plus. Emmenons-la dans la cave. Il est temps de lui réapprendre les bonnes manières. »
Léonie ne résista pas quand le pan la prit par le bras et l'entraîna dans l'escalier qui menait à la cave. Une partie du sous-sol, la plus grande, servait de garage, une autre d'atelier. La dernière, enfin, était une pièce d'environ 20 mètres carrés, éclairée par une ampoule pendue au bout de son fil. Une pellicule de poussière grise recouvrait les cartons entreposés le long de 2 murs et les couvertures réparties sur un matelas posé dans un coin à même le béton brut. Léonie se laissa faire lorsqu'ils entreprirent de lui retirer ses vêtements.
« Tu maigriras plus vite toute nue, commenta Tante Destinée. Et puis, ça te fera passer l'idée de foutre le camp. »
Les rondeurs de Léonie détournèrent un instant l'attention du pan, qui, sans même s'en rendre compte, suspendit ses gestes.
« Arrête de la reluquer comme ça, toi !» siffla la hyène. « Va plutôt me chercher le bâton de bambou !»
La peau de Léonie se glaça. Cyriane fut emportée par un tourbillon de souvenirs pénibles.
« Je ne veux pas !»
Elle suffoquait, ses pensées s'affolaient, s'entrechoquaient, incapable de trouver la sortie, rebondissant sur d'invisibles parois. Calme-toi. Comment aurait-elle pu se calmer? Elle replongeait tout à coup dans un cauchemar qu'elle avait cru révolu. Elle renouait avec la claustration, la nausée, la douleur, son espace. Cet espace ouvert par sa parenthèse de liberté se refermait à nouveau sur elle, se réduisait à quatre murs et un plafond bas. On ne pouvait pas échapper à son destin, à la malédiction de sa vie. « Qu'est-ce que tu racontes ? » Rien n'est écrit. On peut changer à tout moment son histoire. Léonie frissonna, referma ses bras sur sa poitrine. Tante destinée, la hyène, la couvait d'un regard féroce. « Montre-moi comment changer mon histoire. Montre-moi comment partir d'ici. Comment entrer dans une autre vie ?» Cyriane ne sut que répondre. Les principes, les conseils n'étaient d'aucune utilité dans les circonstances. Il n'avait d'autre choix que d'attendre, et pour Léonie, de subir la correction promise. Le sort de son corps d'emprunt l'inquiétait davantage que le sien, et pourtant, les probabilités étaient minces pour qu'il regagne un jour son organisme d'origine. Il était pris au piège. S'il ne pouvait pas revenir, son corps finirait sans doute par se réveiller, mais personne ne reconnaîtrait le Cyriane d'avant. Il ne serait qu'une chair sans conscience, sans consistance, un ensemble de réflexes organiques. On penserait que son cerveau avait subi d'irréparables dommages, on le bouclerait dans un établissement pour handicapés jusqu'à la fin de ses jours. Pendant ce temps, son esprit fusionnerait avec celui de son corps d'emprunt. Du moins, c'était l'hypothèse la plus plausible. Son moi distinct s'estomperait, et la singularité Cyriane s'effacerait à jamais de la galaxie humaine. Il risquait la dissolution dans le néant, et pourtant, il ne s'en désolait pas, pas encore. Seul le préoccupait la peur et la détresse de Léonie. Lucius revint avec le bâton de bambou, l'un de ces sabres à la fois souples et résistants appelés boken, utilisés par les pratiquants de kendo. Cyriane entrevit par les yeux de Léonie les taches rouilles sur les lattes arrondies, du sang séché. « Je ne veux pas !» Envie de vomir, de pisser. Elle poussa un hurlement de terreur. Quand on désobéit à la famille, faut en supporter les conséquences, déclara Tante Destinée d'une voix lugubre. Elle s'empara du sabre de bambou et commença à frapper avec une rage hystérique. Une pluie de coups s'abattit sur le corps et la tête de Léonie, cinglant les parties les plus sensibles. Elle n'avait pas assez de ses mains, de ses bras pour se protéger. Couche-toi, mets-toi en chien de fusil. Elle n'écouta pas son passager. Elle s'efforça de rester debout, volonté un peu stupide de montrer qu'elle ne cédait pas. Puis, débordée par la douleur, finit par tomber à genoux, s'allonger et se recroqueviller sur elle-même, la tête dans les genoux, les coudes contre les côtes, les mains et sur les oreilles et les tempes. Tante Destinée s'acharna sur elle jusqu'à épuisement. L'odeur de la hyène commençait à transpirer sous les émanations de son parfum. Immobile, Lucius observait la scène d'un air indifférent, pan, mal entretenu, qui n'avait pas d'autre fonction que de parader et déployer ses plumes. Léonie s'était retirée très loin en elle-même, où Cyriane ne pouvait plus la joindre. La seule façon pour elle de supporter la douleur qui se diffusait, implacable, dans son corps. La hyène et le paon sortirent, l'abandonnant prostré sur le béton rugueux, éteignirent la lumière et refermèrent la porte à clé derrière eux. Elle respirait faiblement, les battements de son cœur n'étaient plus qu'un roulement de tambour lointain, quelques-unes de ses plaies saignaient. Cyriane la crut plongée dans le coma. De sa mémoire profonde surgissait, fantomatique, les images désordonnées, à peine esquissées, de sa petite enfance en Afrique. Claquement de pieds nus, agile et joyeux sur la poussière rouge d'un chemin, conciliabule à l'ombre d'un grand arbre, baignade dans les fossés engorgés après les trombes, visage d'une femme aux yeux malheureux et pensifs, vieil homme assis en tailleur en train de raconter une histoire, multitude braillarde entassée dans une salle de classe unique aux murs de terre et aux toits de branchage, ciel orangé, aveuglant, se miroitant sur la surface d'un fleuve nonchalant. Cyriane avait visité l'Afrique avec ses parents. Sa mère était allée au Burkina Faso inspecter l'école construite par l'association dont elle était la présidente. La famille en avait profité pour l'accompagner, mais il en était resté à la porte, comme la plupart des touristes sans doute, trop rationnels, trop bardés de certitudes pour appréhender la complexité d'une terre insoumise à la raison, son ordre invisible, cette splendeur cachée qu'il appréciait à l'instant dans les souvenirs enchevêtrés de Léonie. Entre le monde de Mati, le monde de Léonie et son propre monde, il y avait plus que des fossés, plus que des gouffres, des espaces infranchissables. des abîmes où se déversaient toutes les peurs, toutes les haines, toutes les guerres. Cyrian n'avait jamais ouvert les yeux sur les autres humains. Il avait vécu entre les murailles d'un milieu rassurant, autarcique, convaincu d'appartenir à l'élite humaine, à la minorité qui se proclamait éclairée et ne remettait jamais en cause ni sa légitimité, ni ses privilèges. Il faudrait imposer le voyage extracorporel à chaque être humain. Le regard ne pouvait plus être le même après une expérience aussi déroutante. Tout dépendait sans doute de l'ouverture d'âme du passager. Certains de ses condisciples, dont Johannes, ne semblaient pas avoir été bouleversés outre mesure par leur VEC. Mais, au moins, la possibilité était offerte d'appréhender l'extérieur par un autre prisme, une autre lorgnette. La souffrance s'était limitée pour lui à une rage de dents, à une minuscule coupure sous un ongle, à une entorse de la cheville. Dans le corps de Léonie, il avait connu la faim, la soif, la peur. Il avait entrevu un cadavre égorgé dans la cave d'un immeuble et croisé son meurtrier. Il avait couché à la Belle Étoile. Il avait passé quelques heures en prison. Il avait été enlevé, enfermé dans une cave, giflé, battu jusqu'au sang. Il avait affronté davantage de dangers, d'incertitudes, en un jour et deux nuits que lors des 20 premières années de sa vie. Souffrance, humiliation, exploitation, le lot quotidien de millions d'hommes, de femmes et d'enfants sur la terre, pendant que d'autres se vautraient dans un luxe tapageur, en agitant, comme des crécelles, les droits de l'homme, les lumières, la raison, la démocratie, une farce sinistre dont il était l'un des acteurs ou, au moins, le spectateur complaisant. Le temps s'écoula. Léonie restait étendue sur le sol sans bouger. De temps à autre, un gémissement, un soupir s'échappait de ses lèvres, une protestation étouffée de son corps martyrisé. Ses souvenirs déferlaient sans cohérence, provenant des différentes périodes de sa vie, des plus anciennes aux plus récentes. Cyrian enregistrait et rassemblait les bribes de sa mémoire. Enfance passée dans un dénuement total, mais relativement libre et heureuse. Bande de gosses aux yeux rieurs et au ventre distendu. Chapardage sur les étalages et dans les cases. Père joueur, buveur et toujours absent. Mère travailleuse, dure à la tâche, exténuée. Frères et sœurs de tous âges, faim dévorante. Partage des moindres épluchures, des moindres restes. Eau puisée dans les flaques et bue dans le creux des mains. Colique. Soldats d'un camp ou de l'autre, s'abattant comme une colonne de fourmis carnivores sur le village, ne laissant après leur départ rien d'autre que les murs et les toits, et aussi des gosses dans le ventre des filles, des cris de terreur et d'horreur, les tripes nouées, la vie qui reprend, nouvelle farandole, nouveau jeu dans une chaleur à couper le souffle, mouches bourdonnantes sur les corps d'une maigreur effrayante, agonisant dans les cours, faces ridées et graves des anciens affirmant qu'on a tué l'Afrique, qu'elle ne pourra plus se relever. Ployant sous le joug du Fonds monétaire international, des banques, des dettes, incapables de supporter les concurrences occidentales, indiennes et chinoises, des guerres ethniques attisées par les puissances étrangères, l'irruption soudaine de tant de destinées, la hyène, l'accord passé avec le père, la désapprobation et les sanglots de la mère, le départ pour la France, l'atterrissage brutal dans un monde sans couleur, froid, lugubre, les odeurs étranges, fades, l'impression d'entrer dans un hospice géant, comme dans les couloirs de l'hôpital qu'elle avait visité à Monrovia, quand son père y avait été admis pour soigner une infection urinaire. Et puis, l'interminable cauchemar de 12 ans. Les clients, les porcs. Les porcs. Les porcs. Le résumé d'une vie. Cyrian aurait éclaté en sanglots s'il s'était trouvé en cet instant dans son corps d'origine. Il lui sembla qu'elle remuait. Léonie, Léonie, j'ai mal. Essaie de ramper jusqu'au matelas, puis sera mieux que sur le béton. Pas la force, essaie. Elle essaya, chacun de ses mouvements réveillant en sursaut la douleur tapie dans les recoins de son corps. Elle mit plus de 3 minutes à parcourir les 2 ou 3 mètres qui la séparaient du matelas. Quand elle se fut enfin allongée entre les couvertures pliées, elle sombra presque aussitôt dans un état qui n'était ni le sommeil, ni le coma, mais l'exil d'une chair trop dévastée pour être encore habitable. Combien de temps, tu crois ?
Je ne sais pas au juste. Je dirais un jour.
Un jour qu'elle n'avait rien bu ni mangé, qu'elle oscillait entre veille fiévreuse et sommeil agité. Les plaies s'étaient presque refermées et les douleurs assourdies. Léonie évitait tout mouvement brusque susceptible de les réveiller. Elle avait étalé une couverture sur elle et accepté l'odeur épouvantable que dégageait le tissu en échange de sa chaleur. S'ils ont déménagé ton corps, Cyriane, on ne pourra jamais le retrouver. Tu as peur d'être condamnée à me supporter jusqu'à la fin de tes jours, hein? Elle éclata d'un rire qui fit trembler ses seins, son ventre, et aviva quelques-unes de ses blessures. Je m'habitue à toi, finalement. J'ai l'impression qu'avec mon bébé de 21 grammes, je ne serai plus jamais seule. J'ai dit ça pour toi. Tu as un corps d'ange, une vie de rêve. Ce serait dommage d'être condamné à passer toute ta vie dans le corps d'une pauvre négresse. Une vie de rêve. Il y a bien longtemps que ceux qui mènent une vie de rêve, comme tu dis, ont cessé de rêver. Ils n'ont plus qu'un but. Jouir de leurs possessions, les augmenter si possible, les transmettre, comme s'ils pensaient un jour marchander leur immortalité. Mais ça ne les empêchera pas de crever, seuls, amers, désespérés. Ils ne sauront jamais si on les a aimés pour eux ou pour leur satané fric. Voilà d'où je viens, Léonie. D'un monde qui se targue de démocratie, de fraternité, d'égalité, et qui est incapable de partager. D'un monde qui a perdu tout sens de l'humain. Tu crois qu'ils sont mieux, les miens? Mon père, ma tante, Lucius? Ils sont de ma race et pourtant ils enlèvent les fillettes en Afrique pour les livrer aux caprices des Blancs. Dennis et les Bulls, les seuls qui étaient bons avec moi, ont été exécutés comme des criminels. Disons que les hommes sont frères en cruauté. Ils ont au moins un point commun. Est-ce que les hommes peuvent changer, Cyriane? Peut-être, à condition de ne pas limiter le monde à leur propre perception, d'embrasser toutes les façons de le regarder. Léonie gémit. Elle avait mal, elle avait soif, elle avait faim. Elle était torturée par une énorme envie de soulager sa vessie. Pisse dans un coin de la pièce, qu'est-ce que t'en as à foutre? J'ose pas. Pourquoi? Parce que ça va sentir, parce que je risque d'avoir mal et aussi parce que tu es en moi. Ça ne sera pas la première fois. J'aime bien pisser avec toi. Un petit rire s'échappa des lèvres de Léonie. Je peux vraiment rien faire sans que tu me colles aux fesses, Cyriane. Un bruit de pas et un cliquetis de clé précédèrent l'ouverture de la porte et l'irruption de Lucius dans la pièce. Il n'alluma pas, il se contenta de la lumière de la cave qui s'engouffrait par la porte et plaquait un rectangle étincelant sur le béton. De son costume croisé clair émanait un parfum capiteux, presque suffocant. T'es devenue une sacrée belle fille. Il s'approcha du matelas et de la pointe de sa chaussure, souleva la couverture pour contempler le corps de Léonie. Ta tante est folle de t'amocher, de vouloir te transformer en sac d'os, regarde-moi ça. Tu as tout ce qu'il faut, là où il faut, bien comme il faut. Sa voix s'était troublée, sa respiration était devenue rauque. Il s'accroupit près d'elle, glissa la main sous la couverture et commença à lui pétrir un sein. Elle se tourna d'un coup sec sur le côté pour couper court à ses attouchements. Les douleurs se coulèrent sur sa peau comme des anguilles. Léonie, Léonie, je suis raide dingue de toi. Si tu veux bien de moi, je te ferai sortir d'ici, tu as ma parole. Je t'aiderai à t'échapper. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Surtout pas. C'est un lâche et un menteur. Il n'osera jamais contrarier la hyène. Il m'abandonnera comme un vieux chiffon quand il aura fini sa petite affaire. Il me suppliera de ne rien dire, et puis, je ne veux pas qu'il me touche. Je ne veux pas qu'il entre en moi. Je ne veux pas. On a tout juste le temps, ma beauté. Ta tante est partie pour une petite heure. Fais-lui croire que tu acceptes. Mais il a sans doute un flingue dans la poche de sa veste. Laisse-le te caresser. Laisse-le t'embrasser. Tu pourras lui piquer quand il sera fou de désir. Le regard de Léonie se posa sur la poche de la veste du paon, déformée par un objet lourd. Et si c'est pas un flingue? Tu dois prendre le risque. Ta tante s'est absentée, c'est le moment. J'ai pas envie qu'il me touche, pas envie qu'il m'embrasse. L'image du grand noir aux yeux doux, de ses lèvres toutes proches, occupa l'esprit de Léonie. Tu n'as qu'à te figurer que tu es une actrice, que tu joues la comédie. Tu m'endingues, ma beauté! Le paon s'allongea près d'elle et, à nouveau, glissa la main sous la couverture pour effleurer l'arrondi de sa hanche. Elle frissonna de dégoût. Je ne veux pas, je ne veux pas. Pense à toi. Pense à moi. On peut tous les deux retrouver la liberté. Au bord des larmes, elle se retourna et s'offrit aux caresses et au souffle de Lucius. « Tu es une bonne fille, Léonie !»